On est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Commentaires racistes, antisémites, tweets injurieux ou homophobes. Quelques clics et le monde vous apparaît soudain rempli de haine. Image désespérante d'une humanité de l'ombre. Et en pleine Coupe d'Afrique des Nations, alors que se joue aujourd'hui la première demi-finale, un racisme anti-noir extrêmement violent, décomplexé, s'invite sur les réseaux sociaux. Derrière l'anonymat d'un écran, certains se croient tout permis. Alors qui sont ces nouveaux caïds du web? Qui se cachent derrière ce qu'on appelle la fachosphère, dont on parle de plus en plus? Plus, cette communauté en ligne qui propage des idées de l'extrême droite. Pourquoi la haine s'est-elle banalisée sur Internet et comment lutter si ce n'est pas trop tard? Nos invités pour en parler, David Doucet, rédacteur en chef aux Inrecuptibles, hebdomadaire culturel français, bonjour.
Bonjour.
Vous avez coécrit avec Dominique Albertini le livre La fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net. Virginie Sassoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des médias, vous travaillez en fait sur l'éducation aux médias dans les établissements scolaires au sein d'un laboratoire qui s'appelle le CLEMI. Et Anthony Bem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé dans le droit de l'Internet. Nous serons aussi en ligne avec Michael Stora, psychologue, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Êtes-vous choqués par certains commentaires que vous lisez sur les réseaux sociaux? Que faire, selon vous, pour lutter contre cette violence verbale? On attend vos appels pour nous donner votre point de vue. Ne tardez plus, vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Et puis bien sûr, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et vous êtes déjà très nombreux à nous écrire sur Facebook. Les voisins, on dirait que le sujet vous parle. Malolo est à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il nous dit « De nombreuses personnes ont la gâchette trop facile. Le fait d'écrire sous pseudo ou d'être derrière son écran leur donne l'impression d'être intouchable. Alors elles se permettent de dire n'importe quoi. » Jean-Baptiste à Bukavu, en République démocratique du Congo, nous écrit « Lorsque je lis ou je reçois des messages de haine, je remercie l'auteur par ironie. » Babacar est à Dakar, lui nuance un peu. Il dit, même si le racisme existe bien sur Internet, on a tendance à trop souvent le brandir sans raison pour censurer la parole de l'autre. Donc soyons prudents avec ce terme tout de même. Et puis Landing à Ziguinchor au Sénégal nous dit, quand tout est permis, tout est possible, la toile est aujourd'hui le lieu du meilleur et du pire.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Une vraie parole de haine se déverse aujourd'hui sur Internet. Je crois que tout le monde ici est d'accord là-dessus, sur Twitter, sur Facebook, au bas d'articles de presse postés sur Internet. Comment en est-on arrivé là, David Doucet?
Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le champ conversationnel finalement est apparu dans l'espace public. Avant, les propos, des propos de bistrot, des commentaires racistes qu'on pouvait entendre dans un microcosme familial ou privé, aujourd'hui sont publics. Il y a des traces de tout cela sur Internet. Donc il y a ce premier avec les réseaux sociaux qui est une véritable révolution, le fait que chacun puisse commenter, interagir sous des commentaires de presse, sous des vidéos.
Donc cette haine est plus visible, elle est plus visible.
Elle existait déjà, mais Internet l'a rendu effectivement visible. Et ensuite, ce qu'il y a sans doute aussi comme phénomène, c'est que avant, beaucoup de personnes n'osaient pas affirmer leurs opinions. Ils les taisaient, ils avaient du mal, même dans leur milieu familial ou professionnel, à assumer finalement leurs pensées racistes. Et aujourd'hui, grâce à Internet, il y a un phénomène de libération de la parole, de déculpabilisation, parce qu'ils se rendent compte que d'autres personnes pensent comme eux, et il y a une forme d'émulation collective, et c'est à celui qui finira par brandir les commentaires les plus injurieux.
Parce qu'on se sent aussi anonyme, Virginie Sassoun, sur ses réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, mais je pense que l'anonymat produit un effet grossissant, un miroir grossissant. C'est-à-dire que sur la totalité des trolls qui s'expriment sur Internet, c'est pas certain que tous soient des vrais violents, des vrais fachos, comme on les appelle. Il y a aussi une anecdote d'une journaliste de Clic qui avait rencontré un de ces trolls qui l'a trollé en permanence et qui avait dit, finalement, c'est un monsieur très courtois. Et je pense qu'en fait, l'anonymat, cette espèce de mascarade, de carnaval des identités numériques, nous permet à n'importe n'importe qui de pouvoir exprimer une haine qui parfois est un petit peu gonflée et ressemble un petit peu aussi à de l'écume. Donc je pense que c'est important aussi de ne pas trop accorder aussi toute l'importance et prendre cette haine aussi au premier degré. Il y a beaucoup d'écume.
Et ça peut être des personnes ordinaires comme vous et moi qui publient ce genre de commentaires, Anthony Bem.
Oui, c'est le commun des mortels. On parlait de bar du comptoir. Je pense qu'Internet, au contraire, a favorisé l'expression, a favorisé l'émergence d'une nouvelle expression. Avant, ce n'était pas la parole, avant, c'était la pensée. Et la pensée de chacun, la volonté de vengeance, parfois, fait que derrière un ordinateur se pensant incognito, eh bien, on diffuse sa pensée, et c'est une nouvelle expression pour moi qui est apparue. C'est l'expression d'une haine qui était en chacun de nous, que chacun a la capacité de maîtriser, encore faut-il qu'il ait la conscience qui puisse le faire, et qu'elle est finalement, on est dans des aspects philosophiques plus que juridiques.
David Doucet, vous vous êtes penché sur la fachosphère, c'est un mot qu'on entend de plus en plus dans le débat politique, médiatique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire?
La fachosphère, c'est une appellation pas vraiment scientifique et pas vraiment rigoureuse pour désigner l'ensemble des sites d'extrême droite sur le web. Alors ça rassemble différentes chapelles, il y a les disciples de Dieudonné, de Soral, il y a les nationalistes révolutionnaires, il y a les catholiques traditionnalistes, il y a les identitaires. En gros, ça rassemble toute la propagande d'extrême droite sur Internet, et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'un des continents politiques les plus influents en l'espace d'une dizaine d'années. C'est vrai que cette fachosphère, elle est devenue une forme de contre-média. Elle parvient à imposer, à dicter l'agenda public à travers différentes affaires médiatiques qu'elle a réussi à faire surgir. Et aujourd'hui, on voit que c'est une sorte de lobby sur le web qui est de plus en plus influent.
Et vous le dites, cette fachosphère rassemble un certain nombre de mouvances politiques qui sont très diverses, en fait, et qui reflètent la diversité de l'extrême droite.
Oui, si on les rassemblait tous dans une pièce, sans doute qu'ils s'étriperaient. Ils ont la même, si on devait trouver 2-3 points communs, ils ont la même opposition envers la modernité libérale. Ils souhaitent garder une société un peu dans son jus. Ils ont l'impression que la société française est un peu comme un organisme humain et perturbé par des éléments pathogènes. Donc ils souhaitent une société idéalisée, c'est ça qu'ils défendent. Ils ont une même opposition commune aux médias qui nomment Merdia, aux journalistes qui renomment Journalop. Et c'est cette défiance finalement dans les médias qui fait leur unité.
D'ailleurs, l'un de vos interlocuteurs qui anime un site catholique appelé Salon Beige vous dit « Ce qui nous réunit, c'est qu'on est maltraité par les médias. » C'est cette idée d'être persécuté par les médias, en fait.
Oui, ils ont le sentiment que certains thèmes comme l'immigration, l'islam, l'insécurité seraient sous-traités par les médias traditionnels. Et eux, à base de revues de presse, de la presse quotidienne régionale ou de faits qui se passent à droite à gauche, de faits divers même, ils essaient de les monter en épingle pour montrer qu'il y a un vrai péril immigrationniste, qu'il y a un vrai péril identitaire et qu'aujourd'hui, par exemple, l'Europe est menacée de submersion. Et ils essaient d'agiter ces thèmes-là en disant que finalement, les médias taisent ces informations.
Et il y a notamment un site qui est très, très lu, F de Souche, un site créé en 2005 avec en fond un drapeau bleu, blanc, rouge comme logo, un petit coq rouge, ça c'est pour l'ambiance. Et en fait, ce site relaie des actualités toute la journée, mais pas n'importe lesquelles.
Oui, il tourne autour du triptyque immigration, islam, insécurité. Et lui, sa particularité, c'est qu'il ne produit aucun contenu. En fait, il agrège des informations qui sont produites sur des sites quotidiens régionaux, sur des sites grand public.
Donc mais il reprend des articles des médias.
Il reprend des articles des médias, mais en fait, il martèle toujours le même message. C'est toujours des articles qui sont en relation avec l'immigration, l'islam, l'insécurité. Et c'est une sorte de chambre d'écho de tous les cauchemars identitaires. C'est-à-dire que quand vous allez sur ce site, une semaine, vous avez vraiment l'impression que tous les actes délictueux en France sont commis par des gens d'origine étrangère. Et lui-même le dit, vous allez sur F de Souche une semaine, vous avez compris le message, vous êtes formaté, en fait, vous avez compris qu'il y a un lien évident entre immigration et délinquance, c'est le message qu'il souhaite faire passer. Et en fait, c'est une sorte d'école de formation, en fait, pour ces militants en devenir.
Et F de Souche, c'est 1 million de vues par mois.
C'est oui, c'est-à-dire que c'est quasiment autant que d'autres sites d'information en France. Parmi les 20 sites, les 20 premiers blogs politiques, on en trouve 7 d'extrême droite en France, ce qui montre qu'effectivement, il y a une activité intense de ces sites.
Et des sites très bien référencés aussi sur Google.
C'est-à-dire, oui, vous tapez le mot égalité, vous allez tomber sur le site égalité-réconciliation d'Alain Soral, ce qui prouve qu'effectivement, ils sont ils sont plus en marge du web. Ils sont, grâce à des liens assez forts, ils sont réussi à être au centre, à, voilà, parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui sont produites par, enfin, relayées par ces sites, sont reprises ensuite par des décideurs politiques. Bon, rien qu'un exemple, c'est, il y a par exemple l'affaire Black M, c'était un rappeur de Section d'Assaut qui devait faire un concert de commémoration à Verdun. Et en fait, toute la fachosphère s'est mobilisée pour empêcher ce concert à Verdun. Et ils ont réussi parce que tous les internautes de cette fachosphère ont appelé la mairie et finalement le concert a été annulé. Mais parce que aussi elle a été reprise par des décideurs politiques de droite et d'extrême droite. Et on voit qu'ils ont une vraie puissance de mobilisation en ligne.
Et quel lien avec le Front National ?
En fait, dans cette fachosphère, ils ont tous à un moment ou à un autre gravité au sein du Front National. Soit ils y ont appartenu, soit ils ont... Par exemple, le fondateur de F de Souche a été prestataire de services au sein du Front National. C'est lui qui a commencé à faire les premières vidéos où vous voyez Jean-Marie Le Pen à l'écran. Alain Soral a été membre du bureau politique du FN. Donc on voit tous, à un moment ou à un autre, soit ils ont voté FN, soit ils y ont appartenu. Et en fait, le FN, c'est l'astre central. C'est finalement... ils ne pensent pas tous la même chose, mais au final, c'est beaucoup de leurs électeurs. Enfin, leurs lecteurs finiront par voter Front National lors des élections présidentielles.
Mmh. Le terme fachosphère a envahi le terrain, hein, y compris en politique, en pleine campagne présidentielle française, on va l'entendre. Et les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Depuis des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse qui a commencé par m'accuser d'avoir financé sur fonds publics à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, j'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et la dernière campagne, c'est tout simplement une accusation de salafisme et d'antisémitisme. Cette campagne m'a fait beaucoup de mal. Je lis dans la presse qu'un organisme, une officine qui s'appelle Riposte Laïque a participé à cette campagne absolument odieuse.
Vous savez, c'est ce qu'on appelle un coup de la fachosphère. La fachosphère, c'est les extrémistes qui, comme chacun sait, sont les plus présents sur les réseaux sociaux. Et l'objectif de cette fachosphère, c'est de faire en sorte de reproduire le coup d'Ali Juppé. Mais sauf que maintenant, tout le monde sait que c'est eux. Tout le monde pensait que c'était un mouvement spontané, ça n'a rien de spontané. C'est un mouvement parfaitement organisé par la fachosphère et le simple fait de les dénoncer, c'est aussi commencer à les combattre.
L'extrême droite, dans sa tradition raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, a décidé sur Internet de changer mon prénom. Et donc, Benoît Hamon s'est transformé, je veux les remercier, c'est un très joli prénom, hein. En Bilal Hamon. Dans leurs yeux, moi je suis fier qu'ils m'appellent Bilal. Et je serai fier aussi qu'ils m'appellent Élie, David, peu importe. Mais tous ces noms qu'ils détestent, eux les antisémites, eux les racistes, à qui nous ne laisserons ni la France, ni la République.
On a pu entendre un Alain Juppé, candidat déchu à la primaire de la droite, qui avait été rebaptisé Ali Juppé sur de nombreux sites à cause de sa supposée complaisance avec l'islam politique. On a aussi entendu Jérôme Chartier, député Les Républicains, et Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste aux élections présidentielles, rebaptisé Bilal. Un faux compte sur Twitter le présente en candidat pour l'instauration d'un califat en France, avec des campagnes aussi grotesques, David Doucet. Malgré tout, cette fachosphère réussit à trouver un écho, à convaincre.
Là, c'était un peu un running gag, cette histoire de rebaptiser à chaque fois les noms des candidats. Pour Alain Juppé, effectivement, ça a sans doute pu convaincre peut-être une frange radicale de la droite. Sur Benoît Hamon, on est quand même sur une centaine de tweets. C'est pas non plus à l'échelle d'une primaire de la gauche, c'est pas non plus ce qui a fait basculer le scrutin. Je pense que c'est une manière aussi pour eux d'avoir des reprises dans la presse, toutes ces campagnes, de montrer qu'ils marquent le terrain, de montrer une forme d'activisme.
D'avoir une vraie reconnaissance.
Oui, voilà, c'est ça, de leur action, c'est ce qu'ils cherchent. Mais après, effectivement, ça a pu, pour le cas d'Alain Juppé, parce qu'effectivement, ça a été relié par énormément de sites. Cette histoire de lien avec le salafisme, ça a pu peut-être convaincre certains lecteurs hésitants entre Fillon et lui.
Et pour bien comprendre, les commentaires racistes, injurieux dont on parle aujourd'hui sont le fait, pour une partie, de la fachosphère, de membres de cette fachosphère ?
Tous ne sont pas d'extrême droite. Il y a aussi des lecteurs de gauche qui peuvent se laisser aller à des commentaires parfois... peu recommandable, mais ce qu'on appelle la fachosphère, c'est tous les militants d'extrême droite. Mais donc effectivement, il y en a un certain nombre qui se manifestent, on le voit d'ailleurs sous des articles qui sont en lien avec l'islam, l'immigration, et là, ils vont se déchaîner parce qu'ils ont le sentiment voilà, que leur voix plus identitaire n'est pas représentée dans les articles de presse.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous sommes en ligne avec une auditrice, Maïmouna. Bonjour Maïmouna.
Bonjour.
Vous êtes étudiante à Dakar et je crois que vous êtes souvent la cible de commentaires, de messages haineux. Racontez-nous.
Effectivement Charlie, en fait je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc, il m'arrive de commenter des publications, surtout concernant l'actualité. Je suis des pages de chaînes de télévision et tout. Maintenant, là, en fait, suite à ces commentaires que je donne, pour exprimer mon idée sur le sujet en question, il m'arrive qu'il y ait des réponses sous mon commentaire, des réponses très racistes et qui vont juste même dans mon inbox, dans ma messagerie privée, des gens qui se permettent de m'envoyer des émaux de bananes. Ou bien qui prennent même en photo qui m'envoient des photos de singes, juste pour m'exprimer en fait, qui me considèrent comme un singe, voilà, c'est ce que ça veut dire.
Ouais, des commentaires vraiment racistes.
Qui me traitent aussi d'esclaves, oui, qui me traitent de descendants d'esclaves et tout. Ça peut être vraiment, vraiment violent, aller jusqu'aux insultes, voilà.
Et comment vous le vivez, vous?
En fait, au début, c'était difficile, bien sûr. Mais après, c'est devenu une habitude parce que, comme je leur dis souvent, et c'est le même disque qui revient, malheureusement, et on finit par s'y habituer, voilà. Maintenant, moi, parfois, il m'arrive de répondre, mais je ne réponds que quand vraiment je sens que la personne, que je suis étonnée de voir, parce qu'ils vont jusqu'à visiter mon profil Facebook pour mieux organiser leur réponse, je dois dire, raciste. Pour qu'elle me corresponde mieux. Maintenant, moi, quand je vois ça, en fait, parfois, ce sont des adolescents de 13, 14 ans, 15 ans, il y en a pour des âges. Parfois aussi, il y a des personnes qui sont en âge mûr, 20 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans, parce qu'il m'arrive aussi d'aller visiter le profil pour voir quelle est la personne qui m'a dit une telle chose.
Et ça vous choque encore plus quand c'est quelqu'un d'âge mûr?
Oui, ça me choque encore plus. Et là, je ne peux pas m'empêcher de répondre parce qu'aux enfants, là, je me dis, je ne vais pas perdre mon temps. Je ne réponds pas aux adolescents. Mais quand je vois que c'est une personne en âge mûr, qui peut-être, si la profession est inscrite sur Facebook, même peut-être que c'est un enseignant, parfois un militaire, mais une personne qui a une vie active, qui est censée avoir un minimum d'éveil, qui se permet de dire ça, moi, c'est ce qui me choque surtout. Ça me choque plus que l'action elle-même, voilà.
Et vous ne comprenez pas. Merci Maïmouna pour votre témoignage. Qui veut réagir à ce témoignage qui est assez fort quand même? On voit que Maïmouna vit ça quasiment au quotidien. Virginie Sassoon.
Oui, je trouve que ça témoigne bien de la banalisation de cette haine et de cette violence au quotidien. Et elle témoigne aussi qu'elle s'est habituée et qu'elle a appris à se défendre. Et je crois que c'est ça aussi auquel on doit faire face. Et face à ces réseaux qui sont extrêmement bien organisés, il faut aussi que chacun soit en mesure de se défendre quand on est attaqué. Quelles sont les ressources? Quels sont les recours légaux? Je crois que c'est important, notamment auprès des plus jeunes, de les sensibiliser à ces armes de défense.
Anthony Bem, quel
oui, recours. Les victimes ne sont pas en reste avec le droit. Sur Internet, on ne peut pas tout faire. C'est important de le savoir. Et sur Internet, on n'est pas incognito tout le temps. Et c'est important de le savoir aussi. C'est-à-dire qu'il y a une double sensibilisation. Il y a à la fois les auteurs qu'il faut sensibiliser pour leur faire savoir les risques qu'ils encourent et leur identification possible, cas échéant, en cas d'infraction, injure, propos racistes, antisémites, diffamation. Et il y a aussi les victimes qu'il faut informer, parce que les victimes disposent de recours. Certes, ils sont parfois longs, parfois coûteux, parfois difficiles à mettre en œuvre, mais ils existent, ils ont le mérite d'exister, et on peut agir pour identifier les auteurs, au travers de plaintes notamment, et de constitution de partie civile.
On reparlera de ces solutions pour apaiser, pour adoucir le débat sur Internet. David Doucet, Virginie Sassoon, Anthony Bem, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash. Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue ou vos questions, si vous en avez pour nos invités. Si vous êtes irrité, lassé, attristé par le déferlement de haine sur Internet ou sur les réseaux sociaux, pensez-vous qu'il faut répondre, laisser passer ou signaler les propos illégaux sur les sites en question? Quand qu'en pensez-vous? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. A tout de suite dans 3 minutes.
Suivez la Coupe d'Afrique des Nations. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Au cœur des méandres de la toile, dans ce qu'elle a de plus obscur et de moins reluisant, nous parlons de cette vague de haine qui déferle sur Internet sans qu'on puisse vraiment lui faire barrage. La rancœur déposée à même le clavier ou quand Internet devient un défouloir pour des anonymes seuls dans leur coin ou pour une communauté d'extrême droite bien organisée. La toile est-elle devenue une zone de non-droit et quelle responsabilité des géants du web? On en parle avec David Doucet, co-auteur du livre La Fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net chez Flammarion, Anthony Bem, avocat spécialisé dans le droit de l'internet, et Virginie Sassoon, directrice du labo Clémy pour l'éducation aux médias et à l'information. Vous continuez de réagir sur Facebook, les voisins. Hassan est à Dakar, il nous écrit « Il ne faut pas répondre aux messages haineux, on ne répond pas aux coups que nous donne l'âne. Tout est question d'éducation, il faut éduquer les jeunes et condamner ces actes. » Et puis Mokhtar nous écrit depuis Richard Toll au nord-ouest du Sénégal. Il nous dit « En guise de métaphore culinaire, j'imagine la planète comme une grande table où il y a couscous, burger, mafé, pizza et thieboudienne. Je ne veux pas voir ce repas finir en sang, alors passez-moi le sel. » Et c'est ça, le vivre ensemble sans haine, ni xénophobie, encore moins de racisme. Alors une petite note d'espoir pour cette émission. Vous pouvez aussi nous appeler au 33 1 84 22 71 71 et on reçoit déjà beaucoup d'appels. Nous accueillons une auditrice tout de suite, Éléonore. Bonjour Éléonore.
Bonjour Charlie.
Vous êtes à Lomé, au Togo. On vous écoute.
Oui, c'est ça. Voilà, je voudrais en fait dire que ces commentaires-là, il ne faut pas y répondre comme celui qui a écrit tout à l'heure sur Facebook. Il ne faut vraiment pas y répondre. Je pense que ce sont des gens qui sont ignorants, qui font ce genre de commentaires, ou alors pour juste se rendre intéressant sur Internet. Faut surtout pas y répondre, faut laisser faire quoi.
Même si ça peut être un peu dur à accepter parfois quand ça nous vise.
Oui, ça c'est dur à accepter. Ou dans le cas contraire, si sur votre page que la personne a fait ce commentaire, vous bloquez tout simplement la personne. Et voilà.
Ça vous arrive, vous, de réagir ainsi?
Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas confrontée à ce type de commentaires?
Non, je n'ai pas encore été confrontée à ce type de commentaires, mais j'ai été choquée par les commentaires après l'élection de la Miss France. Ça m'a beaucoup choquée que des gens écrivent ce genre de trucs. Je me suis dit qu'ils étaient ignorants, forcément, sinon on ne pouvait pas écrire ça.
Merci pour votre témoignage, Éléonore. Virginie Sassoon, je vous voyais acquiescer à ce témoignage.
Oui, ce qui est étonnant, en fait, c'est la persistance des témoignages racistes à l'endroit des élections de Miss France. Parce que Sonia Roland, quand elle a été élue dans les années 2000, les pratiques numériques étaient moins encore communes, mais elle avait déjà reçu 2000 lettres d'insultes papier. Enfin, je veux dire, donc ça montre aussi que l'imaginaire raciste et l'incapacité de notre société à concevoir que Miss France n'est pas forcément blanche, ça raconte beaucoup de choses aussi sur cette persistance-là.
Et à l'époque, ça se traduisait en lettres, pas encore.
Ça se traduisait en lettres et aussi en autre insulte, mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ça s'est déplacé en fait et en même temps ça persiste et c'est cette persistance moi que je trouve inquiétante et qui effectivement se traduit parfois de manière de plus en mieux organisée et c'est
à l'encontre de Miss France noire ou métisse.
Totalement.
C'est régulièrement le cas.
Mais même des Miss qui ont, par exemple, les cheveux naturels afro et qui vont être insultées parce qu'elles ne correspondent pas aussi au canon de la beauté noire. Donc bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi très virulent.
Nous sommes aussi en ligne avec un autre auditeur, Juste Parfait, à Libreville. Bonjour, Juste.
Bonjour.
Alors, on vous écoute. Que vous inspire le sujet du jour, la haine sur Internet?
La haine sur Internet, elle a beaucoup de pans, je veux dire. Elle a beaucoup de pans, ça dépend de la manière qu'on l'oriente. Mais que peut-on faire quand on a en face de nous beaucoup d'injustices? En face de nous, quand on a beaucoup d'injustices, on est obligé de chercher d'autres canaux où on peut s'exprimer. Et à ce moment, Internet devient maintenant une voix des sans-voix. Je suis bien d'accord.
Mais sans tomber dans le racisme, dans l'antisémitisme,
je suis bien d'accord,
il y a des limites à respecter.
Je suis bien d'accord qu'on ne doit pas... les propos haineux ne sont pas élégants. C'est pas bien gentil. On ne doit pas orienter la haine envers autrui, envers les autres. C'est pas élégant. Mais lorsqu'on a en face de nous certains problèmes de société, certaines personnalités qui narguent les autres au vu de tout le monde parce qu'elles sont intouchables, si on a ce canal-là, si on passe par Internet, au moins pour essayer de s'exprimer, pour dire exactement ce qu'on pense, il arrive des fois qu'on utilise des propos pas très amènes.
David.
Mais on est obligé de passer par là.
David Doucet, je vois que vous voulez réagir.
Oui, non, mais il a raison sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de commentaires qui manifestent une forme de souffrance sociale. Moi, en étudiant les commentaires, on voit que c'est souvent des commentaires qui sont postés très tard le soir. Il y a beaucoup de gens qui sont en déshérence et qui utilisent les commentaires, bon, parfois injurieux, je ne vais pas jusqu'à la frontière du racisme, mais pour comme une forme de soupape de compensation de la souffrance sociale qu'ils peuvent vivre. Et Internet a aussi permis ça et a permis une libération de la parole. Et avant, ces gens ne l'exprimaient pas finalement, et aujourd'hui ils le font. Mais c'est pas que des gens qui le font de manière incognito. Il y a aussi, par exemple, le fondateur de FDSE, Pierre Sautarel, me disait que lui, quand il imitait au FN dans les années 80-90, il le faisait de manière anonyme. Et il me disait, je suis étonné de voir à quel point sur la page Facebook de FDSE, les gens vont poster des commentaires très durs vis-à-vis de l'islam, l'immigration, et en mettant leur nom et leur prénom. Donc il y a une vraie aussi déculpabilisation la pensée extrémiste.
Merci en tout cas pour votre point de vue juste. Merci beaucoup. Une question se pose évidemment, à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute, la responsabilité des réseaux sociaux, des géants de l'Internet qui ne sont pas assez réactifs, Anthony Bem ?
Le problème est qu'aujourd'hui, et depuis de trop nombreuses années, depuis l'origine des réseaux sociaux, post-2005, Twitter, Facebook, Instagram, etc., le législateur, au contraire, a abandonné le terrain, a laissé les nouvelles technologies prendre du terrain sans pour autant légiférer, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nous avons des lois qui ne sont pas susceptibles de pouvoir trouver utilement à s'appliquer par rapport au problème des réseaux sociaux et par rapport à Internet. Tant qu'on aura... le problème qui demeura en France et que ce problème demeura à l'international puisque les sites internet peuvent être hébergés ou appartenir à des sociétés étrangères, Twitter et Facebook par exemple.
Ce qui rend des procédures judiciaires plus difficiles.
Ce qui rend les procédures plus longues, plus coûteuses et plus difficiles puisqu'il faut appliquer à l'étranger une décision française de condamnation de Twitter qui n'est pas difficile à obtenir ou de Facebook non plus, mais encore faut-il pouvoir l'exécuter là-bas. Évidemment, ce n'est pas accessible à tout le monde, mais il n'en demeure pas moins que tous les propos sur internet peuvent faire l'objet d'une procédure. Alors oui, les propos racistes antisémites, il y en a énormément. On ne peut plus rien faire aujourd'hui pour faire le ménage sur la toile. C'est ça le problème. Ce n'est pas juste FDSE, les extrémistes de droite. C'est pas juste les gens qui sont d'une origine ou d'une autre. C'est tout le monde qui est concerné vis-à-vis de du voisin.
Mais alors,
celui d'à côté, qui est différent de soi.
Le problème, c'est que certains utilisateurs signalent à Facebook, à Twitter, des propos haineux, et ces propos peuvent rester en ligne pendant plusieurs mois.
Ces sites ne font rien aujourd'hui. Le législateur n'ayant rien fait dans tous les pays, ne condamnant pas ces réseaux sociaux, ces sites internet, à être vigilant, à avoir un contrôle a priori. Finalement, aujourd'hui, en l'absence de sanctions, c'est la liberté quasi absolue pour ces sites qui font ce qu'ils veulent, et Google aussi, malgré qu'il y ait des jurisprudences qui les condamnent.
Virginie Sassoon, pourquoi ces sites internet ne coopèrent-ils pas, ou si peu ?
Je pense que ce qui vient d'être décrit d'un point de vue juridique est clair aussi sur la difficulté en fait, à trouver les moyens. Je crois aussi qu'il faut avoir une vision, là on parle de la fachosphère, de la haine raciste, antisémite, il faut aussi dire que ces réseaux sont parfois des formidables outils de mobilisation contre la haine raciste et contre l'antisémitisme. C'est aussi important de dire que ce sont des réseaux de solidarité, des réseaux d'influence qui sont certes moins structurés, mais quand on voit aussi qu'il y a certains hashtags, le pouvoir de certains hashtags pour faire bouger les lignes. Oscar So White, on l'a vu, finalement l'Académie a ouvert en fait le nombre de votants pour une représentation plus juste.
Oscar
aussi.
So White, c'était un hashtag sur Twitter pour dénoncer le manque d'acteurs ou d'actrices noires nominées aux Oscars.
Et je pense que les initiatives, on peut en parler aussi, des initiatives qui contrecarrent aussi toute cette haine raciste sur les violences policières aux États-Unis. On a vu aussi des mouvements se structurer via les réseaux. Et en réalité, si on essaye d'avoir une approche un peu plus globale, on se rend compte qu'il y a quand même des guerres aussi sur les réseaux et que tout le terrain n'est pas acquis à la fachosphère.
On a une contre-attaque dans notre pan.
Et je pense que les auditeurs en ont pleinement conscience parce que c'est aussi, même via des sites change.org ou des choses comme ça, la cybercitoyenneté, elle se développe de plus en plus en même temps qu'on voit effectivement grandir et se structurer cette fachosphère.
J'aimerais qu'on parle de l'attitude des médias par rapport à ce fléau. Certains journaux décident de s'engager en publiant sur leur une, par exemple, des commentaires racistes. Le premier à avoir lancé cette tendance en fin 2015, c'était le quotidien allemand Bild. Il a été suivi par d'autres journaux ailleurs dans le monde, en France, par la chaîne de télé France 3, dont la rédaction affirme « ne rien dire, c'est se rendre complice ». France 3 a publié les noms ou pseudos Facebook et même les photos des personnes qui avaient publié des paroles de haine. Est-ce que pour vous, c'est une solution pour combattre donc cette haine sur Internet ?
Oui, je crois que le bad buzz et les campagnes de honte qu'on publie, c'est une vraie force aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément la seule, le seul moyen, mais en tout cas, ça fonctionne et la pression peut marcher parfois.
Je pense que le pire est de ne rien faire. Je pense que le pire, c'est de s'habituer à cette haine. Et contrairement à ce que dit cet internaute, on peut s'habituer, certes, mais il ne faut pas s'habituer. C'est d'abord des infractions pénales. Et en tant qu'avocat, laissez-moi vous dire que je suis très sensible. Et au nom de l'injustice, il faut la combattre. Et par quelques moyens que ce soit. Alors l'éducation civique, bien sûr, des parents, des enfants. Et puis après, que les sites internet se mobilisent, les médias se mobilisent. Il est important parce qu'ils ont laissé faire jusqu'à aujourd'hui. En ouvrant les commentaires sur leurs articles, ils ont laissé quelque part...
Et certains médias ferment d'ailleurs certains murs aux commentaires.
La plupart aujourd'hui finissent par fermer les commentaires ayant conscience, mais ça fait déjà des années que ça dure, que finalement n'importe quel sujet de société, de politique donne lieu à un déversement de haine.
Mais c'est un dommage pour la liberté d'expression, David Doucet.
Oui, moi je trouve que c'est regrettable, mais après, en fait, il faudrait, comment dire, des modérateurs qui puissent arbitrer des débats et que... Le problème sur Internet, c'est que les minorités, finalement, sont finalement les plus visibles. Parce que lorsqu'on a un avis... Enfin, les personnes d'extrême droite ou qui ont des avis très tranchés vont avoir tendance plus à s'exprimer que la majorité silencieuse. Et donc, du coup, c'est vrai que sous les articles, on voit une représentation des commentaires qui n'est pas forcément représentative de l'opinion publique. Mais bon. Et moi, je vois, par exemple, sur Twitter, je me fais souvent insulter par des militants d'extrême droite. Il y en a qui sont irrattrapables lorsque l'insulte est vraiment gratuite et vraiment... Mais des fois, il suffit de leur répondre une première fois de manière courtoise. Et en fait, ce sont des gens qui ont un besoin de reconnaissance et d'attention. Et parfois, on arrive à créer un dialogue et à rattraper ces gens-là. Parce que parmi tous ces gens qui publient des commentaires racistes ou extrémistes, il y a beaucoup de gens aussi qui sont perdus et qui ne trouvent pas de réponse à la crise du sens de notre monde contemporain, à l'effondrement finalement du modèle capitaliste, et donc qui se laissent aller à un défoulement en fait. Mais c'est aussi une forme de souffrance. Et donc je pense qu'il y a un dialogue aussi instauré pour les rattraper et les ramener sur un... C'est pour ça que je ne suis pas forcément adepte d'une sorte d'affichage public des pseudos, pourquoi pas, mais il y a des gens qui sont racistes et puis qui finissent par... regretter leurs commentaires et puis à passer à autre chose.
Et Internet permet à ces personnes qui sont frustrées de s'exprimer. Nous sommes en ligne, vous continuez de nous appeler les voisins. Nous sommes en ligne avec Fataou, un auditeur à Parakou au Bénin. Bonjour Fataou.
Et allô, bonjour Charlie.
On vous écoute Fataou.
Ok, merci beaucoup Charlie. Moi je pense bien que face à des attaques que des internautes s'entretiennent entre eux, sur nos réseaux sociaux, moi je pense que pour finir à de telles bassesses, moi je pense que des responsables des différents réseaux internet devraient, à mon avis, essayer de recruter des personnes je veux dire, des modérateurs devaient les recruter, les former, et puis essayer de les mettre dans tous les groupes d'échanges sur nos réseaux sociaux, afin que ceux-ci puissent essayer de modérer nos différentes discussions sur des réseaux.
Il faudrait des modérateurs sur tous les groupes, par exemple sur Facebook, pour animer les discussions et surtout pour vérifier que ça ne dérape pas.
C'est voilà. Donc, essayez donc de filtrer nos messages, parce qu'il y a beaucoup d'intoxication à travers nos publications. Du coup, ces publications suscitent certaines haines entre internautes, ce qui, par moment, nous fait subir beaucoup de scènes que moi je qualifie d'horribles, à la limite même inhumaines. Je ne trouve pas assez agréable.
Bah, merci Fataou pour votre éclairage, pour votre suggestion. Qu'est-ce que vous en pensez, Anthony Bem ?
Les modérateurs, en effet, c'est la clé. Parce que ce qui s'est passé dans les années 2004, lorsque la première loi sur Internet a été promulguée en France, la loi dite pour la confiance dans l'économie numérique en 2004, le législateur, finalement, a posé le principe de l'irresponsabilité des sites s'ils n'avaient pas de modérateurs. Ce qui fait que les sites qui avaient des modérateurs ont arrêté d'en avoir. Pourquoi ? Ça coûtait cher et il fallait évidemment couper court. Et comme la loi ne l'imposait pas, bah finalement, ils ont supprimé les modérateurs. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 10 ans, les réseaux sociaux ont pu permettre le déversement de ce qu'on peut chacun voir apparaître au quotidien, les propos racistes, antisémites, xénophobes, etc.
Nous serons en ligne avec Michael Stora, psychologue, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Mais d'abord, Ghetto Style Empire de Doxy.
À chacun son empire, le mien c'est Ghetto Style. Chaque fois qu'il y a l'inspi, je fais tourner le deal. Le rap game est de spi, les enfants veulent ce qu'ils. Beaucoup de MC, j'ai fait pas en exil. À chacun son empire, le mien c'est Ghetto Style. Chaque fois qu'il y a l'inspi, je fais tourner le deal. Le rap game est de spi, les enfants veulent ce qu'ils. Beaucoup de MC, j'ai fait pas en exil.
Mes collègues d'abord gage comme on s'espère et salade. Justement, j'en serai l'excuse en y quand tu passes un gratos. On ne touche pas un calibré, un test à quoi d'abord au rail. C'est bon, tu es dans ma main, fait, mais j'ai des ralentis. C'est ton style en pis. Ouais, c'est de toi tout veille en spi. Ça brûle les étapes, c'est pourquoi ton mou tout transpire. Pour les shows, pour te rendre gris, on met le feu. Et puis on avance comme les frères, si c'est de mon pays. Même tu peux pas dire, mon appui est trop complet. Devant tes yeux, les jetons. On va les compter. Tout ça qui est gré dans ton crucible. Là, ça est là, on va nous parler. Ta bouche, la bonne, la laisse ça.
À chacun son empire, le mien c'est Ghetto Style. Chaque fois qu'il y a l'esprit, je fais tourner le deal. Le rap qui émet, je spie, les enfants veulent ce qu'il. Beaucoup de MC, j'ai fait pas en exil. À chacun son empire, le mien c'est Ghetto Style. Chaque fois qu'il y a l'esprit, je fais tourner le deal. Le rap game est de spi, les enfants veulent ce qu'il. Beaucoup de MC, j'ai fait partie en exil.
Nous sommes en ligne avec Michael Stora, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonjour Michael Stora.
Bonjour.
Alors, cette haine sur Internet a-t-elle selon vous de beaux jours devant elle ? Pourra-t-on en venir à bout ?
J'ai écouté ce qui a été évoqué sur la problématique de la modération est essentiel et c'est vrai que si, d'une certaine manière, les sites eux-mêmes n'ont pas cette responsabilité citoyenne ou les gouvernements n'exigent pas qu'il y ait ce vrai travail de modération, qui en effet coûte cher, je pense que la haine qu'on aura sur Internet existera toujours, tout en sachant que la haine, le rejet de l'autre, a toujours existé. Nous n'avons pas attendu les réseaux sociaux pour que cela existe. Tout simplement, ça vient la faciliter, l'amplifier et la révéler.
Internet se joue le rôle d'amplificateur par rapport à cette haine-là.
Totalement. Et alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai pu un moment, c'est ce qu'on observe tout un chacun, c'est qu'il y a une véritable désinhibition. Lorsqu'on est derrière son écran, on est à l'abri du regard de l'autre, mais pas que. On est aussi à l'abri de certaines instances qui, en nous, sont liées à notre éducation, qu'on appelle entre autres, nous, en psychanalyse, le surmoi, qui d'habitude fait qu'en société, on ne s'autorise pas à faire ou à dire certaines choses. Et c'est vrai qu'étonnamment, on se rend compte à quel point il y a une vraie, vraie désinhibition, pour le meilleur, parce que pour les grands inhibés, c'est tout à fait intéressant à certains moments, d'oser être un autre. Mais on peut voir aussi que chez certaines personnalités, avec une tendance sûrement sadique, évidemment, là, c'est un lâcher-prise qui peut devenir totalement terrible et haineux.
Et quelle solution vous voyez, vous, à cette haine qui se déchaîne sur Internet? Vous parlez de nouvelles formes de modération qu'il faudrait envisager?
Oui, alors, bon, moi, j'ai moi-même fait un travail de modération psychologique sur un grand réseau social qui a été créé il y a 15 ans, qui s'appelait skyrock.com, sur des problématiques très précises de souffrance, mais qui, la souffrance peut passer par des propos haineux. Notre travail était de rentrer en contact avec eux et d'entamer un vrai travail de dialogue. Pour le coup, à l'époque, c'était assez courageux de la part du patron de Skyrock, et finalement, il est évident que, sans rentrer forcément dans un vrai travail de modération psychologique, il y a un travail en amont et qui va au-delà des réseaux sociaux, c'est-à-dire accepter la différence. Je pense que c'est des choses finalement profondes et malheureusement, quand on voit certains discours, entre autres politiques, on se rend bien compte que malheureusement, on en est loin.
Et je voudrais vous lire le message d'Abdoulaye qui nous écrit de Kousri au Cameroun. Il dit « Pour stopper ces mauvaises habitudes, il faudrait passer par de la sensibilisation. On pourrait s'inspirer du foot, de l'UEFA, l'instance européenne de foot, et de son slogan « No to racism », non au racisme, qui est placardé aux alentours des stades à chaque rencontre de la Ligue des Champions, pour dissuader ceux qui seraient tentés par des actes racistes. Les réseaux sociaux pourraient prendre des mesures similaires en affichant des messages anti-racisme sur leur page. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Là.
Oui, évidemment. On va dire que toute forme de sensibilisation à la question du racisme est importante. C'est un vrai travail éducatif. Et malheureusement, vous savez, j'ai envie de dire que le racisme a un fondement très profond qui est celui de la peur. Entre autres, la peur de soi, mais aussi la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'on rejette dans l'autre ce que l'on est aussi. Donc c'est vrai que cette différence, elle est riche. Et je dirais que parfois, à certains discours, il y a une tendance à vouloir annihiler les différences. Et je pense entre autres à des discours assez laïques, un peu durs, un peu trop républicains, je trouve, à mon goût. Alors j'ai toujours pensé qu'il fallait accepter de se comparer pour se rassembler. Ça fait un peu politique ce que je dis, mais je crois qu'il faut faire un travail éducatif sur la question de la différence et ne pas avoir peur de cette différence. Et c'est comme ça, en général. Alors pourquoi pas les réseaux sociaux pourraient pas simplement à travers des phrases, mais à travers des véritables opérations. Et puis après, il y a un arsenal juridique tout à fait essentiel parce que c'est puni par la loi. Donc concrètement, il faut qu'à un moment, les gens se disent « bah voilà, je ne peux pas tout dire ». Et petit à petit, ce qu'on appelait à une époque la net étiquette, c'est-à-dire au fond cette forme de courtoisie nécessaire qui n'empêche pas des discours critiques, qui n'empêche pas d'avoir des discussions parfois passionnées, mais c'est vrai qu'on va voir ce qu'on appelle des « haters », qui sont peut-être différents des trolls, mais qui sont justement des gens dont la fonction, c'est de totalement détruire. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les pervers, entre autres.
Merci Michael Stora, psychologue, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Virginie Sassoun, alors on a parlé d'éducation, hein, je pense que c'est un sujet qui vous concerne. Et vous êtes d'accord ?
Oui, bah, je ne peux qu'être d'accord et je suis sensible à ce que Michael Stora vient de dire, notamment sur l'éducation à la différence. Et nous, au Clémy, on travaille sur l'éducation aux médias et à l'information parce qu'on estime que c'est une éducation aussi à la citoyenneté qui permet aussi et qui a les enfants et les jeunes pour déconstruire les stéréotypes racistes, sexistes et haineux. Et on travaille sur deux axes. Le premier, c'est savoir vérifier l'information, évaluer la source, d'où elle vient, comment on s'informe, sachant qu'aujourd'hui, les jeunes s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc ça pose aussi ces nouvelles pratiques informationnelles, elles posent tout un tas de défis aux enseignants et on travaille vraiment sur cet axe de développement de l'esprit critique des jeunes. Et le deuxième, c'est celui dont on parle, c'est-à-dire les sensibiliser à l'acte de publication. On est responsable quand on publie, quand on s'exprime et à un usage responsable des réseaux sociaux. Et donc ça, c'est ces deux axes sur lesquels on travaille et qui, je pense, sont majeurs et qui doivent commencer dès le plus jeune âge. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes sont de plus en plus jeunes sur les réseaux.
Dès quel âge vous pensez que ça doit commencer ?
Certains sont dès l'âge de 9 ans, 10 ans sur Internet. C'est facile de mentir et de dépasser l'âge légal est normalement 13 ans. En réalité, il y a beaucoup d'enfants. Hein, et je pense que c'est le rôle de l'école aussi d'accompagner les enseignants, pire qu'ils soient aussi, eux aussi, armés pour former toute cette génération qui arrive et qu'on appelle digital native, mais qui en fait n'est pas forcément compétente au niveau des usages et qui a vraiment besoin de
nous. Encore à apprendre.
Oui, pour se questionner sur à la fois développer son esprit critique et l'acte de publication.
Nous sommes en ligne avec Marilyn qui nous appelle de Paris. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Je crois que vous travaillez pour une association de lutte contre la discrimination.
Non, je ne travaille pas pour cette association, mais je l'ai rencontrée et je suis bénévole au sein de cette association. C'est la Fédération nationale de la Maison des potes qui lutte contre le racisme et les discriminations. Donc ça fait plusieurs 3-4 ans maintenant que je les connais, que je vais à leurs universités européennes, que je vois les combats qu'ils mènent, que je suis informée de ce qui se passe. Et là, c'est moi qui... Enfin, ils ne m'ont pas demandé de vous appeler, mais c'est moi qui vous appelle, vu le sujet, pour vous dire que souvent, je suis tenue au courant des luttes que cette fédération mène. Souvent, ils ont des dossiers béton concernant le racisme et les discriminations, qu'il s'agisse du racisme, des problèmes de discrimination au travail, au logement ou autre, ou d'actes racistes. Et c'est vrai qu'il y a des dossiers souvent béton qui vont en justice. Et ce que je ne comprends pas, c'est que souvent, je leur entends dire qu'il n'y a pas de sanction pénale. Alors, je me pose la question du pourquoi.
Pourquoi ? Eh bien, merci Marilyn pour cette question. Anthony Bem, je vous laisse répondre en quelques dizaines de secondes.
La difficulté, c'est que les sanctions pénales en matière de propos racistes doivent être obligatoirement poursuivies par des associations constituées d'au moins 5 ans en France, par exemple, et que les particuliers ne peuvent pas eux-mêmes poursuivre les propos racistes. C'est obligé.
Ce qui est compliqué.
Ça passe obligé par le canal d'une association, ce qui rend compliqué les procédures, mais pas impossible.
Est-ce qu'on peut garder espoir, rêver d'un monde où la haine ne sera plus aussi présente sur Internet?
Tant qu'on oubliera nos origines et que finalement nous sommes qu'un, le risque c'est que oui.
On peut y arriver.
Je pense que c'est un espoir, c'est une utopie, mais pour moi c'est peut-être un espoir.
Merci à vous Anthony Bem, David Doucet, Virginie Sassoon. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins et merci à vous bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des parents sous pression. À quelles inquiétudes font face les tout nouveaux parents? L'arrivée d'un enfant a beau être de plus en plus planifiée, devenir parent ne va toujours pas de soi. Alors si vous êtes parent, mère ou père, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 71 71 et à nous écrire sur Facebook et Twitter.
Présidentielle 2017.